Qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
Ce n'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes.
Cette conversation mondiale...
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial du vendredi, une conversation mondiale comme tous les vendredis consacrée ce soir à ce que la Covid a fait au langage. À l'ordre du jour ce soir, comment la Covid a-t-elle changé notre langage? On le sait, nous nous sommes habitués à l'apparition de nouveaux termes, des expressions spécialisées du domaine médical ont par exemple gagné notre quotidien depuis plus d'un an. Les taux de létalité, les gestes barrières, la distanciation sociale sont devenus pour nous d'un usage commun. Il en est ainsi dans toutes les langues, comme le dit d'ailleurs le texte très inspirant que nous ont confié deux collaborateurs du dictionnaire d'Oxford, Richard Carl Deang et Danica Salazar. Donc ils nous l'ont confié pour le texte de la conversation mondiale que vous pouvez retrouver à cette page sur le site de France Culture. Ils y insistent sur la variété des approches de chaque culture nationale, sur l'adaptation de la langue au contexte local. Alors qu'en est-il pour le français? Ces changements sont-ils des changements temporaires ou des changements durables? C'est la question que nous allons poser dans cette conversation mondiale à nos deux invités. Bérangère Bauchet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice éditoriale des éditions Le Robert. Et Michel Francard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur ordinaire de linguistique à l'université de Louvain en Belgique. Vous êtes également chroniqueur de langue au quotidien belge Le Soir.
C'est bien ça.
Alors partons de ce texte qui nous a été confié par Danica Salazar, qui est éditrice pour The English Oxford Dictionary, et Richard Carl Deang, qui est doctorant en anthropologie médicale à l'Université de Virginie aux États-Unis, et tous les deux ont écrit ce texte ensemble, Covid-19 et langage, qui est publié sur le site de France Culture, donc à la page de la conversation mondiale, et qui nous explique beaucoup de choses venant du domaine anglais, du domaine anglo-saxon. Sur ce point, Bérangère Bauchet, ils insistent sur l'idée qu'évidemment, il y a des mots qui étaient déjà disponibles et qu'on a utilisés beaucoup plus fréquemment qu'auparavant. Ça, c'est tout à fait évident. Les mots de dépistage, de désinfectant ou de masque de protection étaient déjà présents dans la langue anglaise comme dans d'autres, mais que dans beaucoup de contextes, eh bien, c'est ce qu'ils expliquent, on a pu inventer ou adapter. Ils disent par exemple le lockdown qui a été utilisé dans beaucoup de langues qui n'étaient pas des langues anglaises et adapté dans des contextes comme l'allemand, l'italien ou le néerlandais ou le philippin. Eh bien, nous avons préféré quarantaine et nous avons même préféré quatorzaine, par exemple, à partir du moment où on a su que c'était des quarantaines qui duraient deux semaines. C'est donc l'exemple même des adaptations qu'ils disent de notre langue à des contextes locaux.
Oui, exactement. Il est un fait que la langue française n'est pas restée confinée. Elle a manifesté sa vitalité, sa force d'expansion. Alors, il y a eu quelques néologismes, vous venez de le dire, hein, quatorzaine, déconfiné, déconfinement et tous les dérivés qui vont avec le verbe et avec le substantif. D'autres néologismes, nasopharynx, oxymètre, saturomètre, enfin vraiment des appareils et qui permettent de mesurer les taux d'oxygénation. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Il y a peu d'anglicismes. On peut s'en féliciter quand même.
Oui, c'est vrai.
On a cluster, mais qui était déjà présent dans le registre médical. Des mots anciens, effectivement, là je souscris tout à fait à ce qu'écrit le texte, qui sont dotés d'un sens inattendu et renouvelé à l'épreuve des faits, donc traçage, écouvillon, ventilateur, réserviste. Et puis des expressions inédites. Je crois que c'est plutôt sur le terrain des expressions que la fécondité du langage a trouvé à s'exprimer. Alors quelques-unes que vous n'avez pas citées, le patient zéro, la distanciation sociale, plutôt physique on préférerait dire et écrire, l'immunité collective, la réserve sanitaire, une vague épidémique, et puis souvenez-vous, au début de cette épidémie, on parlait d'orage cytokinique.
Oui, absolument, c'est effectivement l'orage cytokinique qui fait beaucoup parler dans la première partie de cette histoire. Michel Francard, vous qui travaillez pour le quotidien Le Soir et qui avez donc une chronique régulière de langue dans ce quotidien belge, vous vous êtes posé cette question, par exemple, le mot déconfinement, ça vous a interrogé?
Oui, bien sûr, on a fait toute une série de billets sur ces sujets-là. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir un petit peu comment ces mots étaient découverts par le public, parce que tout ce qu'on vient d'évoquer maintenant, par l'intermédiaire de Madame Baucher, ce sont évidemment des considérations qui sont celles de personnes qui sont à l'aise avec les dictionnaires, etc. Mais comment est-ce que le public reçoit tout cela?
Ouais.
Lui ne sait pas qu'un mot vient de surgir ou bien date d'il y a un siècle, etc. Et donc, il y avait des interrogations dans le public pour voir un peu d'où ces mots venaient, est-ce qu'ils se trouvaient dans les dictionnaires. Là aussi, je n'en parlerai moins bien que Madame Baucher, mais il est clair que les dictionnaires ont eu une attitude différente cette année par rapport au néologisme. Hein. Très vite, on a vu la nomenclature du Petit Robert, notamment, intégrer ces mots nouveaux à la suite d'autres. Donc c'est une réactivité à la fois du public, mais à la fois aussi des gens qui rendent compte des mots.
Et cela, c'est intéressant parce que, par exemple, on a vraiment un mot qui a été inventé, enfin c'est une formule, Covid-19. Alors Covid-19, c'est la nomenclature de l'OMS qui a déclaré dans un tweet du 11 février 2020 comment ce nom de cette nouvelle maladie devait être utilisé désormais. On s'y est tous mis, on a dit la Covid ou le Covid. Et là, ça posait déjà une petite question, Bérangère Baucher.
Oui, effectivement, il y a eu tout ce lot de nouveaux mots dont on a parlé, de nouvelles expressions, mais aussi de débats linguistiques, voire de controverses. Et sur le genre à donner au Covid ou à la Covid-19, il y a eu débat, il y aura peut-être encore débat. Juste une précision pour commencer. Dans le Robert, on n'a pas tranché, ou on a tranché en ne tranchant pas.
C'est-à-dire
puisqu'on...
C'est un nom masculin et féminin?
Exactement. Et oui, puisque le Robert, c'est un observatoire de la langue. Oui, on n'est absolument pas là pour dire de manière prescriptive comment il faut parler ou écrire.
Ça n'est pas l'Académie française.
Exactement, on enregistre un usage. Mais ce qui est quand même très intéressant, si on fait un peu de genèse, c'est que pour moi, la morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que le tyran de la langue, c'est pas justement les prescriptions de l'Académie ou autre, les volontés de normaliser un usage. Précisément, le tyran de la langue, c'est l'usage. C'est-à-dire que l'Académie arrive en mai, 3 mois après le début de l'épidémie, pour dire, et de manière tout à fait compréhensible,
il faut dire la Covid.
Il faut dire la Covid. Et de fait, il faudrait dire la Covid. Puisque, si on est scrupuleux, on fait venir un acronyme qui est un calque de l'anglais, effectivement, Coronavirus Disease 19. Bon, très bien. Et donc, théoriquement, le genre de cet acronyme devrait être, eh bien, celui du mot pivot du syntagme dont il est l'abréviation, c'est-à-dire disease, maladie en français, donc féminin. Le truc, c'est que ça arrive 3 mois après et que l'usage, entre-temps, il s'est implanté.
Et on a dit
et il fait loi. Et il fait loi. Alors après, on trouve sur les sites d'Amélie.fr, le site de l'OMS en français, l'acception « la Covid » qui est très juste et dont on voit qu'elle a une acception plus administrative.
Oui, et sur ce point, justement, Michel Francard, vous vous êtes posé la même question en tant que linguiste à l'Université de Louvain?
Oui, exactement. Donc, dès que le mot a surgi, à ce moment-là, je me rappelle avoir fait un billet qui expliquait pourquoi, normalement, le féminin était attendu. Mais je signalais déjà à ce moment-là, donc c'était au mois de mars, hein, je signalais déjà que le masculin avait tendance à se répandre. Alors, il faut tenir compte, puisque nous sommes en francophonie ici, hein, il faut tenir compte aussi de ce qui se passe outre-Atlantique. Et là, on sait qu'au Québec, la forme féminine domine très, très largement. Mais on ne peut pas dire que le mouvement est suivi de ce côté-ci. Alors, en Belgique, nous sommes à la fois très proches de vous, mais parfois un peu plus loin. Et donc, des recommandations officielles comme celle de l'Académie, je crois, nous touchent moins. Ouais. Donc, en Belgique, ce que je puis vous dire, c'est que l'usage est très largement celui du masculin.
Oui, et alors, effectivement, ça a donné lieu même à des débats, donc, disons, sociétaux, Bérangère Baucher et Michel Francard, puisque certains ont dit, ou certaines ont dit, eh bien, voilà, on va encore traiter cette maladie de féminin comme si c'était le féminin qui portait la maladie. Il y a eu des discussions sur cette question-là en disant il faudrait peut-être le mettre au masculin pour que ce ne soit pas toujours le féminin qui l'emporte dans ces questions-là.
Oui, alors je ne sais pas si vous voulez répondre Michel, mais effectivement il y a des crispations et on le comprend autour du genre. En plus,
ouais.
Hein, il n'y avait pas de raison que le Covid n'ait pas lui-même un trouble dans son
le
genre.
Le trouble dans le genre, comme dit Johnny Butler. Ouais.
Effectivement, et de fait, il y a eu une crispation autour de cette question. Moi, ce que je retiens, effectivement, pour reprendre ce que disait Michel Francard, c'est que c'est vraiment l'usage qui fait loi et que de fait, au Québec, ils sont quand même plus attentifs que nous, malgré tout, à un usage plus scrupuleux de la langue, de ses usages par rapport à l'anglais. anglais, etc. Et donc, peut-être qu'ils se sont démarqués plus tôt que nous. Et l'Office québécois de la langue française, d'ailleurs, a dit beaucoup plus tôt, attention, il faut employer le la 15 jours après la décision de l'OMS de baptiser la maladie par Covid-19. Donc, on voit bien que là, et de fait, quand on regarde dans les requêtes Google Trends, enfin, les séquences, en France, la Covid est quasiment inexistante dans les discours courants. Ouais. Au Québec, il y a vraiment une
concurrence.
Une égalité, oui, des deux séquences, là et le Covid.
Alors, la particularité avec vous, Michel Francard, c'est que vous avez beaucoup travaillé en tant que linguiste sur le belgicisme, sur les usages particuliers de la langue française dans l'espace francophone qu'est la Belgique. Est-ce que cela a été marqué, justement, est-ce que cet espace a été marqué par une différence par rapport à ce qu'on utilise en France sur la question de cette crise de la Covid?
Oui. Si ça se marque, sur des points de détail, hein, donc, puisque fondamentalement, je crois que les Belges francophones sont tournés vers la France, notamment pour leurs pratiques, mais aussi ils écoutent les médias français, donc il y a une très forte influence qui vient de France. Simplement, un phénomène intéressant que l'on peut partager avec les auditeurs et auditrices, c'est que en Belgique, nous sommes donc dans un État qui est plurilingue. Il y a trois langues officielles, et donc les communications.
Rappelons-le, c'est l'allemand, le flamand et le wallon. Enfin, la langue wallonne.
C'est le français, le français, le néerlandais et l'allemand. D'accord. Français, le néerlandais et l'allemand. Et donc, les communications gouvernementales, où les Flamands sont majoritaires, utilisent souvent des documents anglais et parfois même par une forme de courtoisie linguistique. On ne parle pas la langue nécessairement de l'autre communauté, mais on s'adresse à elle en anglais. Et donc, on a vu au tout début toute une série de termes anglais apparaître, donc dont certains ont déjà été cités, mais donc c'était des termes comme tracing, cluster, social distancing, etc. Et il y a eu, dans la partie sud du pays, donc dans la partie francophone, des prises de position très nettes pour demander que, pour des matières aussi importantes que celle-là, et ça rejoint le texte de l'Oxford Language Group, hein, demander que la communication, pour des raisons évidentes, de compréhension du public, soit beaucoup plus transparente, et utilise donc le français. Et donc, ce qui explique, par exemple, que dans la partie sud du pays, confinement et déconfinement ont été adoptés sans aucun problème, alors qu'au nord du pays, lockdown a été...
C'est passionnant de voir effectivement que sur un même territoire, effectivement, les mêmes les mots ne sont pas les mêmes pour désigner les mêmes conditions de vie. D'ailleurs, dans le texte qui nous a été fourni par Richard Cardeang et Danica Salazar de l'Oxford Dictionary, et que vous pouvez lire sur le site du temps du débat à la page de la conversation mondiale, ils prennent le cas, Bérangère Bauchet, de social distancing. Et c'est intéressant parce qu'ils en font l'histoire. Ils disent, voilà, l'entrée de l'Oxford Dictionary sur social distancing date de 1957. Et ils disent, qu'est-ce que ça veut dire social distancing, donc la distanciation sociale, en 1957, l'action ou la pratique de maintenir un degré d'éloignement ou de séparation émotionnelle avec une autre personne ou un groupe social, ce qui est très différent de l'usage qu'on en a fait depuis, ce qui prouve bien qu'effectivement, il y a des évolutions. Et ils disent, ça a évolué de cette question de santé publique appliquée à social distancing en 2009, donc bien avant la crise de la Covid, mais très proche de nous.
Écoutez, moi, ce que je trouve en tout cas intéressant avec ce terme de distanciation sociale et puis qu'on a requalifié en distanciation physique, c'est précisément que, alors c'est un terme qui en tout cas effectivement existait en tant qu'expression. Moi, je m'intéresse surtout au mot distanciation que je trouve passionnant et qu'on trouvait effectivement dans un registre théâtral brechtien qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on connaît.
Encore que,
en réfléchissant justement, je me suis dit, mais la distanciation, c'est quoi pour un acteur? C'est le fait justement de se distancier de son personnage. Pour justement le fait qu'il est en train d'agir. Et on aurait pu parler de mise à distance physique ou de distance physique. Pourquoi distanciation? Parce que ce petit suffixe « action », il permet de souligner ce qui relève de l'action. Et donc là, nous est vraiment demandé d'opérer une action, d'être les propres acteurs de manière responsable de la façon dont on va pouvoir justement faire en sorte de ne pas se contaminer. Et donc moi, c'est un mot que je trouve très intéressant de ce point de vue-là.
Qu'est-ce que veut dire Knuffel contact en flamand, en néerlandais. En néerlandais, Michel Francard.
Eh bien, ce sont des contacts câlins. Ce sont des contacts câlins, donc ce sont au fond les personnes avec lesquelles un contact très proche peut avoir lieu. Donc c'est une notion qui a été développée dans le nord du pays, chez nous, donc en Flandre, mais aussi qui peut s'appliquer à la partie sud du pays. Ce sont désigne donc les personnes qui sont dans notre bulle, parce que là aussi on a créé un sens particulier pour le mot bulle, bulle sociale. Nous sommes dans des bulles que nous devons respecter, les jeunes sont dans des bulles avec un nombre précis de personnes.
4 généralement, c'est cela ?
Ah, ça commence par 4. Alors, selon les états de la pandémie, ça augmente ou ça se rétrécit. Donc, ce sont des bulles variables. Mais en tout cas, elles ne procurent guère d'ivresse par les temps qui courent. Ça, c'est certain. Et donc, knuffelen, en néerlandais, signifie câliner, serrer quelqu'un dans ses bras. C'est un très beau néologisme du côté. Il a été donc choisi comme mot de l'année, nouveau mot de l'année, par nos amis du nord du pays.
Oui, c'est amusant parce que vous venez de citer ce terme de bulle sociale, qui est un terme qui aurait pu s'appliquer un peu partout dans l'espace francophone, et il n'a pas pris d'une certaine façon parce que le gouvernement français n'a pas utilisé ce type de terme pour qualifier la façon dont on va se retrouver. On nous a dit 6 à table, par exemple, à un moment. Ça aurait pu être considéré comme une sorte de bulle sociale, mais ça n'a pas été utilisé par les autorités, donc on ne l'a pas emprunté à votre usage à vous en Belgique.
Oui. Ça désigne évidemment une politique linguistique, une politique sanitaire, pardon, oui, très 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 précise, hein, qui était développée en Belgique, comme elle a été développée, je crois, en Nouvelle-Zélande, mm-hmm, et en Angleterre.
Absolument.
Également. C'est là qu'on a emprunté à la fois le terme et la pratique. Je crois qu'en France, vous n'avez pas eu exactement la même disposition. Donc ça peut expliquer. Voilà, ces mots viennent aussi évidemment des politiques plus générales dans lesquelles les pays vivent la crise sanitaire.
Alors, Bérangère Bauger, vous ne vous êtes pas contenté d'enregistrer les mots qui existaient. Vous avez aussi, avec nos amis de l'Oulipo, qu'on a souvent fréquenté ici à France Culture, vous leur avez demandé de réfléchir, l'ouvreur de littérature potentielle, de réfléchir à l'invention de mots qui correspondent à des dispositions sociales dans lesquelles on se trouve. Alors, évidemment, il y a vaccin glinglin, par exemple. Primo, c'est une projection dans un avenir incertain lorsque la perspective d'un vaccin contre le coronavirus apparaissait encore très lointaine. Et secondo, c'est lorsque les pays pauvres seront enfin fournis à leur tour en vaccin. Vaccin glinglin, par exemple, où ils ont inventé s'auto-buer. C'est ce qui m'arrive pour l'instant avec le masque. Quand les lunettes sont embuées à cause du masque, je vois rien et je vous vois à peine d'ailleurs dans la buée. C'est donc s'auto-buer, par exemple, ou cobidité, c'est l'embonpoint simultané de plusieurs personnes vivant dans des situations de confinement. Vous leur avez donc demandé de faire, d'inventer des mots qui correspondent à des situations.
C'est ça, exactement. En fait, il y a un principe qui me paraît important, c'est que pour que les mots ne se jouent pas de nous, il faut jouer avec eux. C'est indispensable, surtout dans la période qu'on vit en ce moment.
Vous avez appris ça
avec Alain Rey.
Avec Alain Rey, voilà.
Exactement. Et de fait, on a voulu quand même rendre hommage par ce jeu concours avec l'Oulipo, j'y reviendrai, mais à la vie vitalité du langage de tous et toutes pendant cette période si particulière et où chacune et chacun ont généré ces fameux mots-valises que vous nous avez donnés. Mmh. On n'a pas attendu que l'Oulipo nous les invente pour que les Françaises et les Français y pensent par eux-mêmes. Je voudrais juste revenir, et je reviendrai peut-être sur l'Oulipo après, mais sur des petits mots qui me paraissent drôles et pas que. Par exemple, démerdentiel, on a entendu ce terme, alors qui joue sur la dimension subversive et ludique du langage, en déformant un jargon administratif assez insupportable, ouais, quand même, hein, en distanciel.
Présentiel, distanciel, ouais.
C'est-à-dire, on pourrait clairement dire à distance, enfin bon, on dit en distanciel, et donc qui déforme ce jargon administratif pour le rapprocher plaisamment d'un registre beaucoup plus trivial, avec, bon, bah, on fait ce qu'on peut juste pour se démerder avec ce qu'on a et dans les conditions qui sont les nôtres. Et puis, il y a plein d'autres mots-valises qui sont apparus autour de l'apéro, justement,
corona-apéro,
apéro, Skype-apéro, apéru, etc. Donc, il y a vraiment une néo lexicale incroyable.
Et d'ailleurs, juste une question, est-ce qu'on peut repérer le moment où ça naît ? C'est votre travail, théoriquement, oui, de voir cela naître, mais surtout, est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'inventeur du mot en question, ou c'est absolument impossible parce que c'est un usage qui est tellement, disons, varié et tellement une sorte de virus des mots qui...
Alors, j'allais y venir, écoutez, vous me l'enlevez de la bouche, si je puis dire, de pas trop près quand même, mais en fait, ce qui se passe là, ce que moi j'analyse et qui me fascine, à vrai dire, c'est qu'il y a un rapport d'homologie très frappant entre, effectivement, la façon dont ce virus prolifère et il se fait son job de virus, hein, il prolifère très rapidement. Et puis la façon...
Il persiste dans son être.
Et il persiste dans son être en variant, c'est-à-dire en mutant, et un peu comme les mots, c'est-à-dire qui eux-mêmes se disséminent à l'heure où on vit actuellement de façon très rapide, et eux-mêmes en variant avec les mêmes. Vous savez, ces vidéos, ces textes humoristiques qui ont la propriété justement...
On prend la même image et on lui donne un sens différent.
Exactement, qui font l'objet de nombreuses variations, et c'est comme ça qu'ils résistent et qu'ils subsistent. Et je dirais que vraiment, il y a quelque chose de très important, c'est que vous m'auriez posé la question là du Covid et du langage il y a ne serait-ce que 10 ans, on n'aurait pas eu le même débat. Là, il y a un enjeu de propagation qui est très moderne, parce que les mots utilisent des outils de réplication qui facilitent un régime de l'attention à haute fréquence. Et du coup, on est soumis sans arrêt
Comme la finance à haute fréquence, donc on dit qu'elle est le propre même de la mondialisation.
Bien sûr, c'est un raz-de-marée terminologique que permettent justement les réseaux sociaux.
Sur ce point, Michel Francard, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette analogie entre la propagation et la vitesse de propagation des mots et aussi la vitesse de propagation du virus ?
Oui, c'est une très très belle métaphore. Hein. C'est une très très belle métaphore. Cela dit, ce sont évidemment les locuteurs qui propagent les mots, tandis que le virus a l'air de se faire bien tout seul. mais sinon, je suis tout à fait bien d'accord avec l'analyse que Bérangère vient de proposer. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'est retrouvé dans plusieurs langues, et il y a même des mots comme Covidio, par exemple, qui se sont retrouvés
à de multiples
endroits. Donc, ce n'est pas un fait francophone, même si nous sommes effectivement très heureux que ça soit passé comme ça chez nous. Ça donne aussi, je trouve, ça c'est d'un point de vue plus linguistique que strictement lexical, ça donne aussi le sentiment aux locuteurs qu'ils ont leur langue en main.
Donc
ils sont capables, oui, c'est plus qu'une maîtrise, ils sont capables de se l'approprier, donc de créer, donc d'aller au-delà, si vous voulez, de la norme qu'ils, eux, situent, eux, dans les dictionnaires. Et cette activité de néologie, parfois un peu débridée, eh bien, leur montre, au fond, les potentialités de leur langue. C'est quelque chose de très intéressant et... Vous savez, j'essaye parfois de réfléchir un peu à l'avenir du français hein, dans ce marché linguistique mondial. Et je me dis que des éléments comme ceux-là montrent que de ce point de vue-là, il y a de l'avenir pour une langue qui est encore capable de créer.
Bérangère Bauchet, une façon de ne pas subir, en fait.
Alors, une façon de pas